La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, la compagnie des auteurs, épisode 2, nous parlons d'André Malraux jusqu'à jeudi. André Malraux, mort il y a 40 ans et qui repose depuis 20 ans maintenant au Panthéon après y avoir accompagné les cendres de Jean Moulin, ce qui fait qu'on ne peut plus passer devant ce bâtiment sans penser à eux ensemble. C'est pourtant un fils de la classe moyenne que rien ne prédisposait particulièrement à ce destin glorieux, qui naît le 3 novembre 1901 et grandit en banlieue parisienne avant de s'émanciper à sa majorité pour tenter d'accomplir son destin, devenir André Malraux, c'est-à-dire devenir un homme fou de hauteur. Cette disposition de caractère, cette fascination pour l'héroïsme le conduira à défendre la cause des Amanites après avoir tenté de piller un de leurs temples, puis à mettre sur pied une escadrille afin d'aider les républicains durant la guerre d'Espagne, ainsi qu'à s'engager dans la résistance. C'est cette même disposition d'esprit sans doute qu'il guidera dans l'écriture de ses romans, citons La Voix Royale, Les Conquérants, La Condition Humaine ou encore L'Espoir. Nous en parlerons demain avec Henri Godard qui les a édités en Pléiade. Puis au-delà de la littérature, c'est l'art en général qui a passionné André Malraux, l'art auquel il a consacré de nombreux essais comme La Métamorphose des Dieux ou encore La Tête d'Obsidienne. Ce sera notre sujet de jeudi avec Jean-Yves Tadier. Et aujourd'hui, nous parlons de sa rencontre capitale avec Charles de Gaulle, dont il sera deux fois le ministre et qu'il ira voir une dernière fois à Colombey pour une conversation dont il tirera un livre, Les chaînes qu'on abat. Politique donc au menu aujourd'hui avec Alexandre Duval-Stalla qui publie André Malraux, Charles de Gaulle, une histoire de légende, c'est dans la collection Folio. Puis en seconde partie, nous parlerons avec Michel Crépu de Malraux face aux jeunes en mai 68 à l'occasion d'un livre qui paraît en folio également.
Dans ma génération, à 20 ans, on pensait qu'on serait poète poétique.
Vous le pensez toujours ?
Non.
Que vous auriez dû l'être ?
Le problème ne se pose plus. Il ne se pose plus, l'action est entrée en jeu d'une façon qui n'existait pas du tout. Penser que nous aurions dû penser qu'après tout, Victor Hugo avait eu une vie assez pleine. Mais nous ne le pensions pas. Nos poètes, c'était Baudelaire, c'était Verlaine, c'était Rimbaud, etc. Et notre conception du génie, c'était le génie maudit. Et ça allait de soi.
Malraux au micro de Jacques Chancel. Bonjour Alexandre Duval-Stalla.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors on va parler aujourd'hui d'un homme qui est d'abord un écrivain, qui avait, on vient de l'entendre, pour modèle de vie Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, qui aspirait à 20 ans à être un poète maudit, mais qui est devenu ministre d'un général qui n'incarnait pas vraiment la bohème, c'est le moins qu'on puisse dire.
Effectivement, le général de Gaulle n'incarnait pas la bohème, mais ce sont d'abord deux personnalités, deux intellectuels. Je pense qu'on ne peut comprendre cette relation si intime entre les deux si on ne comprend pas que c'était deux personnages extrêmement intellectuels. Alors des intellectuels différents, hein. Nous avons un général de Gaulle avec une éducation extrêmement classique, qui ne se connaît plus aujourd'hui malheureusement, à la fois les humanités, mais aussi très ouvert aux romans, aux différents auteurs, une fascination pour notamment Chateaubriand. Et en face, nous avons un intellectuel autodidacte qui a vraiment même André Gide était fasciné par la culture en fait d'André Malraux, qui connaissait tout, qui mélangeait tout, qui avait des rapports aux uns et aux autres, et notamment dans les Voix du silence, on remarque ça. Il était à la fois capable de parler de statuettes hindoues et de vases sacrés sumériens. Enfin, c'est une, vraiment deux intelligences complètement différentes, une extrêmement classique et une farfelue mais géniale.
Et puis de Gaulle, c'était un homme qui appréciait particulièrement les écrivains.
Alors, le général de Gaulle mettait voilà, première place dans la hiérarchie des fonctions, effectivement écrivain. Et notamment, lorsqu'il va, pendant la guerre, il va, un de ses soucis, notamment à son retour, mais aussi un peu pendant la guerre, c'est de rencontrer les grands écrivains français. François Mauriac le rencontrera quelques jours de la libération de Paris. Il aura l'impression de voir le Christ en chair, selon le mot de son fils. Et puis, il rencontrera aussi Bernanos à son retour du Brésil. Valéry également, mais pas d'André Malraux. Et pourtant, André Malraux est à cette époque-là le grand romancier de l'entre-deux-guerres. Le général de Gaulle avait fait une confidence dans un avion pendant la guerre en disant qu'il y avait eu deux grands romans, c'est le journal d'un curé de campagne de Renanos et La condition humaine. Même si pour l'ensemble de son œuvre, c'était François Mauriac qui l'appréciait, mais et donc il y avait une attirance pour André Malraux. Mais il faut comprendre que à l'époque, on est dans 45, on a à Paris un pouvoir qui sont complètement dissipés. Nous avons en fait que deux grandes forces politiques. D'un côté, le général de Gaulle qui conserve ce qu'il peut encore conserver de cet état. Et puis de l'autre côté, les communistes, et avec bien évidemment des questions très profondes de savoir si la France ou pas va passer sous régime communiste.
Alors ce qui est très intéressant dans la manière dont De Gaulle voit les écrivains, c'est que pour lui, les écrivains ont une responsabilité morale. Ils incarnent aussi, au même titre que lui d'une autre manière, la France.
Tout à fait. C'est pourquoi il en voudra beaucoup à Paul Morand, puisque Paul Morand est à Londres au moment où le général de Gaulle arrive le 17 juin à Londres. Et Paul Morand va revenir, en fait, en France et notamment à Vichy. Et il lui en voudra jusqu'à la fin en lui disant que il est revenu en France parce que sa femme avait du bien et que, en fait, avait des biens et qu'il aurait dû rester parce qu'il avait cette responsabilité morale. Il aurait dû rester, effectivement, à Londres auprès du général de Gaulle. Ce qui expliqua notamment qu'il fut reçu, certes, à l'Académie française, mais pas reçu par le président de la République, contrairement à la tradition.
Parce que Morand et De Gaulle avaient pu se connaître avant la guerre.
En fait, Morand représentait à Paris les intérêts français. Donc il était, par ses connexions, explique le général De Gaulle, il aurait été, pour la France libre, bien évidemment, d'un atout essentiel. Il aimait, bien évidemment, qui n'aime pas Paul Morand et l'écriture de Paul Morand.
Nous allons parler dans deux semaines, justement. Nous allons lui consacrer une semaine.
Et donc, il y avait cette profonde déception à l'égard, effectivement, de Paul Morand. Mais par exemple, lorsque Brasillach, on lui a soumis son dossier également de grâce, il l'a refusé parce qu'il considérait, au même titre que les militaires, que leur responsabilité, effectivement, morale était à ce point capitale qu'il ne pouvait pas se dérober face à l'honneur.
Alors, finalement, se rencontrer, on dira peut-être un petit peu plus tard pourquoi, d'un côté comme de l'autre, il y avait des réticences. Il y a d'ailleurs, dans votre livre, une exergue qui est quand même assez amusante, c'est même une double exergue. Vous pouvez peut-être d'ores et déjà...
De Gaulle disant de Malraux ce communiste, et Malraux disant de Gaulle ce fasciste.
Voilà, bon, et donc on comprend que leur point de vue va évoluer avec une rencontre relativement tardive, puisque elle date de juillet 1945. Avant, il y a eu déjà, on l'a déjà dit dans l'émission d'hier, quelques échanges de lettres, quelques tentatives d'approche, mais il reste, Alexandre Duval-Stalla, sur ces a priori que vous mettez précisément en exergue.
Effectivement, il reste sur ses a priori. Très rapidement, André Malraux, lui, va comprendre en fait le génie de la France libre et le génie donc du général de Gaulle. Mais le général de Gaulle, toujours dans cette problématique des communistes, ne sait pas à ce moment-là la position d'André Malraux. Il faut comprendre que André Malraux a été notamment en Espagne, a fréquenté les Brigades Rouges, et donc on se posait la question. Enfin, le général de Gaulle se pose la question de savoir s'il n'est pas finalement un communiste en sous-marin. Et puis il va y avoir une réunion des mouvements de libération, pour savoir si oui ou non il passe ou pas sous la coupe des communistes. Et il y aura un discours à ce moment-là d'André Malraux qui expliquera très très bien qu'il faut garder son indépendance et non pas tomber sous les communistes. Ce qui sera un peu le déclencheur politique finalement de cette rencontre. Et ensuite les entourages feront les choses, l'un disant à l'autre que c'est l'autre qui réclame. Et donc dans la mesure où c'était l'autre qui réclamait le rendez-vous, il pouvait être accordé.
Donc le rendez-vous arrive et on imagine De Gaulle face à Malraux et la première phrase que prononce De Gaulle c'est « d'abord le passé ». Pas de formule, pas de bonjour, non, rien. D'abord, André Malraux, le passé. Qu'est-ce que ça signifie de commencer comme ça de manière aussi abrupte ?
Je crois qu'il avait besoin qu'André Malraux puisse expliquer en fait où il en était. Et il explique d'ailleurs son cheminement politique et il termine en disant que dans la résistance, il avait épousé la France. Et je crois que cette phrase a permis cette espèce de coup de foudre entre les deux, c'est-à-dire cette prise de conscience à la fois par le général de Gaulle, qu'il a en face de lui un écrivain antifasciste, figure vraiment de l'intellectuel des années 20-30, qui est prêt à, dans cette période extrêmement agitée, à le soutenir. Et de l'autre côté, je pense qu'on a, chez André Malraux, cette fascination de voir l'histoire presque en chair et en os.
Mais est-ce que là, dans l'esprit du général de Gaulle, on peut le soupçonner de vouloir, dans le cadre de la réunification un petit peu des diverses tendances politiques à la suite de la guerre, de la libération, de vouloir une caution de gauche à travers André Malraux?
Alors quand on disait ça au général de Gaulle, il sautait sur sa chaise, il a dit « mais je n'ai pas eu besoin de caution de gauche, à Londres j'ai accueilli tout le monde, Pierre Cotte et tous les autres, et donc il n'avait pas besoin de caution de gauche ». Ce qu'il faut dire, c'est que je pense qu'effectivement le ralliement d'André Malraux était bien évidemment un élément essentiel, parce que ça voulait dire que avec lui, derrière lui en fait, il y avait aussi tous les socialistes de l'entre-deux-guerres, et donc une certaine manière, une force politique assez importante, ce qui a permis d'ailleurs d'avoir un gouvernement provisoire qui puisse réunir les socialistes, les communistes et puis une partie de ce qui est devenu le MRP par la suite. Et donc l'apport de Malraux, dans un premier temps, je pense, avait bien évidemment un aspect politique. Il ne faudrait pas être naïf d'un côté ou de l'autre.
On parlait un peu d'un coup de foudre quand même entre les deux hommes qui vont rester amis jusqu'à la fin.
Tout à fait. En fait, ce qui est plus essentiel par la suite, c'est en fait cette communion intellectuelle qu'ils vont partager. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, je pense, à ce moment-là, l'un et l'autre, compris que la rencontre manquée entre Chateaubriand et Napoléon, ils peuvent la réaliser.
Tous les deux vivent aussi par l'histoire et par l'histoire littéraire.
On ne peut pas comprendre le général de Gaulle ni André Malraux si on ne comprend pas cette profonde culture historique qu'ils ont l'un et l'autre, et culture littéraire aussi l'un et l'autre. Les mémoires de guerre, par exemple, sont profondément inspirées du style de Chateaubriand. Quant à André Malraux, il a fait du découpage et a fait une vie de Napoléon. Et je pense que, bien évidemment, l'un et l'autre voient aussi dans leur rencontre cette rencontre entre l'histoire et la littérature.
Et aussi, peut-être que chacun voit dans l'autre une sorte de miroir de ce qu'il aurait pu devenir. C'est-à-dire que De Gaulle, vous parlez des mémoires de guerre, avait sans doute aspiré à l'écriture, et Malraux aussi aspire alors à la politique, peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas à l'engagement.
Tout à fait. André Malraux n'est pas un politicien, il est effectivement un vrai politique, en le sens où il a une conception très très visionnaire de la vie publique, et son engagement dans les années 20, dans les années 30, puis comme ministre des Affaires culturelles, montre bien cette espèce de politique qui est un peu au-dessus que de la politique politicienne. Et puis de l'autre côté, nous avons un général de Gaulle qui a toujours été fasciné par l'écriture, qui aurait voulu être écrivain. Il a d'ailleurs publié quelques petites scénettes.
Il est un peu écrivain quand même, parce que les mémoires de guerre, c'est vraiment de la littérature.
Le film de l'épée reste un livre sur l'art de commander qui est assez extraordinaire. Et puis, ce n'est pas un hasard si la Pléiade l'a aussi mis dans sa collection, puisque effectivement les mémoires de guerre sont écrits et très bien écrits. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. C'est magnifique aussi, et on voit là le travail d'écrivain réel du général de Gaulle.
Rien n'est plus important dans l'histoire du monde que de faire partie des gens qui ont été capables de dire non. Dire non pour un peuple entier et assumer quelque chose que ce peuple, après, imagine comme ayant été l'honneur qu'il a, lui, assumé, c'est une des plus grandes choses qu'un homme puisse faire. Mais vous savez, il pose un peu la même question, pas quand il me dit « Mais qu'est-ce que vous appeliez le gaullisme ?» Et je lui dis « Les gens qui ont parlé de gaullisme, c'était tout simplement des gens qui pensaient que vous étiez comme vous étiez, que vous aviez raison, que vous aviez tort, mais que vos motifs n'étaient pas les motifs des politiciens. »
Alors, il y a beaucoup d'écrivains qui auraient pu prétendre à rallier le général de Gaulle. Vous avez cité Mauriac tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut s'arrêter un tout petit peu sur son cas parce que c'était lui quand même l'écrivain qui avait écrit ou qui écrira peut-être plus tard un livre sur le général de Gaulle. Mais en même temps, il se gardera bien d'adhérer au RPF. Et finalement, Malraux se retrouve un peu seul dans le champ intellectuel. Une fois que de Gaulle quitte le pouvoir en 49, il se retrouve un peu seul intellectuel au RPF. Et là, on sent que c'est quoi, un sacerdoce? Enfin, ça va le devenir. Racontez-nous un petit peu ce moment.
Alors, juste pour François Mauriac, je pense que, en bon catholique, l'engagement dans la vie terrestre n'était pas effectivement la chose qui l'a motivé, et qu'il était plutôt vers une vie céleste.
Oui, enfin, le bloc-notes était quand même assez terrestre.
Mais le bloc-notes était effectivement, mais sans engagement politique. Et donc, je pense que c'est plutôt cette tradition catholique qui l'a influencé. Chez André Malraux, les choses sont différentes. Il y a une certaine manière, l'engagement est pour lui une des conditions de cette vie absurde, et donc de toute sa philosophie personnel. Alors ensuite, bien évidemment, il se fait sentir assez seul au RPF, d'autant plus qu'à la fin, ça devient effectivement un parti extrêmement compliqué et très à droite.
Oui, comment se sent-il dans ce parti que certains parfois qualifient même d'extrême droite?
Je crois que même le général de Gaulle, au bout du compte, était assez fatigué du RPF. Je crois que cette aventure politique qui était nécessaire pour s'inscrire dans le cadre d'une compétition politique au sein de la 4e République s'est terminée effectivement un peu en bérésina, et que ni l'un ni l'autre n'était très satisfait en fait du positionnement dans lequel ils étaient. C'est pour ça qu'ils mettront fin à cette aventure du RPF. Mais derrière l'aventure du RPF, il y a l'aventure du gaullisme. Et donc, de son côté, Malraux va mettre en place des revues, une volonté d'intellectualiser, de cultiver d'une certaine manière le parti, le RPF, en sachant qu'on avait aussi à l'époque des gens d'une grande valeur, comme Jacques Soustelle par exemple, spécialiste des Aztèques, de la civilisation aztèque.
Qui sera ministre également.
Qui sera ministre, et puis après la rupture avec l'Algérie française. Donc on a une aventure qui ne satisfait ni l'un ni l'autre, et je pense qu'ils ne sont beaux finalement qu'au pouvoir et pas forcément dans la conquête du pouvoir.
Alors François Mauriac, justement, il écrit à cette époque-là que Malraux se bat beaucoup plus contre Staline que pour De Gaulle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'en fait le prisme de la vie politique à ce moment-là, c'est le Parti communiste qui quand même a des taux, j'allais dire, électoraux extrêmement importants, parce qu'on est autour de 30%, bien évidemment aujourd'hui on n'est plus le cas, et donc c'est un poids politique majeur. Et effectivement, Staline fait la politique des différents partis frères au sein de l'Europe, et notamment en France. Et donc c'est une vraie question dans cette période-là de savoir comment la France va gérer cette force politique très importante.
Et puis, retour au pouvoir du général de Gaulle, et là, Malraux attend fébrilement qu'on lui passe un coup de téléphone, ce coup de téléphone qui arrive, on lui propose ce fameux ministère.
Voilà, en fait, il y a trois grands entretiens entre de Gaulle et Malraux qui ont été retranscrits. Il y a l'entretien donc de 45, il y a l'entretien de 58, et il y a l'entretien des chaînes qu'on abat de 69. Dans celui de 58, l'idée, c'est de refaire la France. Et à ce moment-là, on a tout ce programme économique, social et politique que met en place le général de Gaulle. Et il va dire à Malraux, l'entretien est assez passionnant, nous allons refaire la monnaie, nous allons faire la décolonisation, nous allons restaurer les institutions françaises, et donc c'est toute l'aventure de la Ve République. Et je crois qu'il y a là, chez l'un et chez l'autre, une hauteur en fait de vue qui placent leur discussion à un niveau sur les hauteurs qui fait qu'ils sont là assez exceptionnels, puisqu'ils ont une vision en fait à la fois de l'histoire et de l'avenir. Et c'est la grande force de l'un et de l'autre, c'est de toujours placer finalement leur leur vision, leur politique à l'aune justement de cette histoire française, de cet avenir français,
qui et finalement dépasse les partis.
Voilà, qui dépasse les partis et qui a une chose commune, c'est-à-dire c'est cette condition humaine. Je pense qu'on ne comprend pas en fait, c'est pas la France pour la France, c'est la France pour la condition humaine. Et donc c'est assez prégnant à la fois chez le général de Gaulle et puis bien évidemment chez André Malraux. Le titre de son livre l'explique bien évidemment.
Vous pensez qu'ils avaient la même conception de la France, que la France avait la même place dans leur imaginaire ?
Je crois qu'ils ont tous les deux été influencés par ce roman national, né notamment avec Michelet, Victor Hugo, 93 de Victor Hugo, et l'histoire de France de Jules Michelet, c'est-à-dire une histoire très romantique, en fait, de la France. Et donc de construire et d'en être les continuateurs, et d'avoir su à des moments où... et ça c'est très gaullien, hein. La France connaît à la fois des hauts et des bas, et beaucoup de bas, et quelquefois des hauts, et cette idée qu'il faut toujours finalement refaire la France. Et bon, en 40, la défaite était telle que bien évidemment la question ne se posait pas, en 58, d'une certaine manière pareil, ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est qu'on a quand même l'affaire algérienne, qui est une affaire dramatique, avec à la fois des morts, une instabilité, et puis un pouvoir qui n'est plus respecté, ne serait-ce qu'à l'étranger. Il faut voir la vision de la France en 57, 58, avant l'arrivée du général de Gaulle. On est vraiment dans une position, dans une impasse diplomatique. Et donc, ils ont l'un et l'autre cette vision extrêmement littéraire aussi de la France. Ils se nourrissent effectivement de l'histoire, mais aussi de l'histoire littéraire, de tous ces auteurs qui ont fait le cœur vaillant de la France. Et quand on reprend tous les discours qu'a fait notamment André Malraux au cours de la Ve République, que ça soit au début en 58, il est vraiment dans un récit épique de la héroïque, hein, de la France, continuateur de l'épopée napoléonienne. Et donc il va et avec la grandeur de la France comme horizon. Donc c'est vraiment une manière littéraire et historique de faire la politique.
Et au ministère des Affaires culturelles, qu'il va tenir quand même pendant 10 années, qu'il va inventer, est-ce qu'il a aussi cet horizon, c'est-à-dire de remettre, de redonner à la France, de refaire de la France ce qu'elle a été de manière mythologique, quoi, presque?
Alors, comme Chateaubriand, il espérait gouverner la France à deux avec le général de Gaulle. Il a été pressenti, en tout cas, il espérait être Premier ministre.
Il était quand même à la droite, toujours.
Voilà, à ma droite, j'ai joué de Gaulle, André Malraux,
pendant
génial.
Les conseils des ministres.
Je pense qu'il faut comprendre deux choses. C'est-à-dire que à la fois, André Malraux était le créateur des affaires culturelles, et le décret d'ailleurs qui crée les affaires culturelles montre très bien l'ambition de ce ministère, c'est-à-dire de donner accès au patrimoine de l'humanité à tous les Français. Et donc on a une œuvre là extraordinaire de création d'une culture pour tous qui a permis aujourd'hui et qui permet aujourd'hui effectivement que chaque Français baigne dans cette culture, ce qui n'était pas du tout le cas avant, qui était vraiment réservé.
Donc on est dans l'héritage, selon vous, de Malraux?
Là, on est dans une effectivement la mise en place d'une offre culturelle, en tout cas d'un sentiment culturel extrêmement important. Et puis de l'autre côté, vous avez une écriture politique. Il disait, je suis pas ministre des Affaires étrangères, je suis le ministre du général de Gaulle. Et donc nous avons là, vis-à-vis du général de Gaulle, en fait, il est le gardien de la légende gaulienne. Et lorsqu'il intervient au Conseil des ministres, il n'intervient pas pour des décrets ou pour des questions
Il paraît qu'il intervient
économiques.
Peu d'ailleurs.
Il intervient peu, mais à chaque fois qu'il intervient, en fait, il garde d'une certaine manière de Gaulle de lui-même. Au moment de l'affaire algérienne, bien évidemment, face à un Premier ministre, Michel Debré, partagé entre sa fidélité gaullienne et puis l'Algérie française, lui défend toujours la décolonisation. Ensuite, au moment de 65, il va aussi défendre le fait que le général de Gaulle se représente. En 68 qu'il reste, en 69 de ne pas dévaluer. Donc à un moment, il y a des moments clés en fait dans le l'exercice du pouvoir du général de Gaulle, et à chaque fois André Malraux rappelle à Charles de Gaulle qu'il est le général de Gaulle.
Et puis il y a quand même un bilan. Alors ce bilan, c'est les maisons de la culture, le ravalement des façades de Paris, c'était pas son idée, mais il s'y est rallié. Ah. Et puis il y a quand même ces fameux secteurs sauvegardés Malraux pour éviter quoi qu'on pille les beaux monuments de France, c'est voilà, ça.
Il avait bien appris de sa jeunesse et de son casse archéologique. Je crois qu'il y a effectivement en termes de ministère des Affaires culturelles, d'abord les fondations avec quelques fulgurances. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que pendant ce ministère, il perdra ses deux fils, il tombera en dépression. Ce sera un moment très particulier au sein des affaires culturelles, du ministère des Affaires culturelles. Mais néanmoins, il a effectivement créé les prémices de cette aventure culturelle que connaît la Ve République, qui n'en était pas un des desseins d'ailleurs, et qui en est sans doute aujourd'hui une des plus belles réalisations de la Ve République, bien évidemment au cours des années et des différents présidents et ministres qui se sont succédés. Mais là, il y a des fulgurances en fait extraordinaires de la part d'André Malraux.
C'est la compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons d'André Malraux et de Charles de Gaulle avec Alexandre Duval-Stalla. On pourrait revenir un petit peu sur le parcours de ces deux hommes parce que votre double biographie, c'est un genre que vous avez presque inventé, le genre de la double biographie, vous le faites pas uniquement pour Malraux et de Gaulle mais aussi pour d'autres grandes personnalités. Vous avez vraiment voulu mettre en regard comment se sont constitués ces deux hommes-là. Et peut-être qu'on peut, en remontant, on l'a déjà fait un petit peu pour l'enfance, mais en remontant à la jeunesse, dire comment ces deux trajets parallèles vont finir par se rejoindre alors que rien ne les prédisposait, à cette rencontre.
Effectivement, tout oppose le général de Gaulle et André Malraux jusque dans leur enfance. Nous avons d'un côté une famille unie, catholique, de droite, vivant à Paris, étant élevé dans les meilleures écoles et puis finissant à Saint-Cyr. De l'autre côté, nous avons un enfant de Bondy, avec des parents divorcés, élevé par sa mère et sa grand-mère, qui ne sera pas reçu au baccalauréat et qui donc sera complètement autodidacte. Et donc nous avons vraiment, j'allais dire, deux personnes qui n'avaient rien pour se rencontrer, puisque d'univers complètement différents. Mais je pense que le cheminement, en fait, à la fois de l'entre-deux-guerres, avec un général de Gaulle, enfin capitaine, puis colonel, puis enfin un général, qui est très bon, qui déjà une ambition de servir ce pays, mais aussi une vraie crainte quant à la défense française et aux états de l'armée française et à la décrépitude du personnel politique. Et donc un engagement de sa part comme militaire, ce qui est toujours compliqué, bien évidemment eu égard aux règles de hiérarchie et de devoir de réserve, mais il a voulu s'engager parce qu'il considérait qu'effectivement le pays n'était pas dans la meilleure des voies possibles pour face aux risques et aux menaces qui venaient de l'Allemagne. Et de l'autre côté, nous avons un farfelu génial qui décide dès le départ, en fait, enfin pas vraiment dès le départ, c'est-à-dire qu'il aura effectivement ce casse archéologique et la découverte en fait de la situation des Amanites et de leur situation bien évidemment extrêmement défavorable.
Et d'ailleurs sur la colonisation, ou plutôt la question de la décolonisation, c'est peut-être ça qui assez tôt finalement va les rapprocher, pas tant qu'ils vont se rencontrer, mais ils vont penser de manière un petit peu similaire, assez tôt dans les années 20 déjà, ils voient les choses un petit peu de manière similaire, Alexandre Duval-Stalla.
Oui, parce qu'en fait, il existe deux traditions dans l'armée. Ceux qui pensent qu'il faut d'une certaine manière détourner l'armée de la guerre sur le territoire européen et donc aller faire la guerre sur les territoires coloniaux, hein, qui aussi était, par exemple, Ferry pensait également ça avant la Première Guerre mondiale. Et puis, vous en avez d'autres qui considèrent que non, il faut se concentrer effectivement sur le territoire, parce que c'est là où sont les vraies menaces. Et c'est notamment Clémenceau, puis De Gaulle dans l'entre-deux-guerres. Donc, ils ont, d'une certaine manière, tous les deux, une vision vis-à-vis de la décolonisation assez mature très rapidement, puisque très rapidement pendant la guerre, le général de Gaulle va dire qu'il est pour l'autodétermination des peuples à se gouverner eux-mêmes et se retrouver sur cette question fondamentale, en tout cas fondamentale pour Malraux au moment de l'affaire algérienne, mais aussi de la décolonisation, puisque c'est la Ve République, au départ, qui va offrir à chacun la possibilité de trouver son indépendance.
D'où peut-être le respect qu'ils auront assez spontanément l'un pour l'autre. Est-ce qu'on peut dire, ce sera ma dernière question, Alexandre Duval-Stalat, qu'ils étaient tous les deux, d'une certaine manière, des rebelles ?
Ils étaient éminemment des rebelles l'un et l'autre, mais avec cette grande force d'une profonde culture française, mais aussi internationale. Et je pense qu'on ne peut comprendre l'un et l'autre si on ne comprend pas que le général de Gaulle est un intellectuel dans l'action et que, d'une certaine manière, André Malraux incarne cet intellectuel en action.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alexandre Duval-Stalat, vous restez avec nous dans un instant pour continuer de parler de Malraux durant sa période gaulliste. Nous serons avec Michel Crépu pour parler des jeunes en 68 et du dialogue qu'ils ont eu à cette époque-là avec André Malraux. Mais avant cela, c'est le moment de retrouver la chronique d'Olivier Mauny. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu.
Et vous ne vous éloignez pas trop de Malraux puisque vous nous parlez de Louise de Villemorin.
En effet, Mathieu, Louise de Villemorin, dont Malraux fut à la fois un grand amour de jeunesse, le compagnon de ses dernières années dans sa belle propriété familiale de Verrières-le-Buisson, et un mentor de chaque instant, à qui la belle Louise doit sans doute finalement sa carrière littéraire. Ceci dit, le moment me paraissait bien choisi, comme vous l'avez dit, pour réévaluer l'œuvre de la bonne hôtesse, comme elle aimait à ce que ses amis l'appellent, et redire l'enchantement de cette femme, douée pour le mystère et la fantaisie, chasseuse de chimères, dont, sinon la vie, au moins la présence au monde, fut peut-être tout de même le chef-d'œuvre.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Olivier, un petit peu davantage, qui était Louise de Villemorin ?
Eh bien, disons, une femme d'abord trop libre, Mathieu, pour se laisser justement renfermer dans une quelconque définition. Mais, disons tout de même, une femme d'esprit et de goût, jusque dans le refus de revendiquer l'un ou l'autre. Une femme qui aimait les hommes aussi, ne comptait-elle pas parmi ses soupirants, outre Malraux, qui fut, on l'a vu, celui qui demeura, dans le temps comme à Verrières, finalement, Saint-Exupéry, à qui très jeune on la fiança, c'est pour lui qu'elle écrivit son fameux « Je t'en lasserai, tu t'en lasseras », sans parvenir, dit-on, à le convaincre qu'il s'en lasserait. Roger Nimier, Orson Welles, Gaston Gallimard, Pierre Seghers, ou même Léo Ferré, mais aussi, quoique de manière plus platonique, bien sûr, Cocteau, Visconti, Christian Bérard, Jean Hugo ou Cécile Beaton.
Ça fait un large spectre politique, ça, parmi tous ses amants.
Politique, certainement, mais esthétique encore plus. Ceci sans évoquer, parmi d'autres manifestations de sa liberté souveraine, son premier mari, l'américain Henry Lee Hunt, qui enleva cet aristocrate de l'Essonne pour l'installer à Las Vegas, qu'elle quitte 3 enfants et quelques années plus tard, considérant que la plaisanterie américaine a assez duré. On pourrait aussi évoquer Duff Cooper, alors ambassadeur de Grande-Bretagne en France, et sa femme Lady Diana, avec qui, après-guerre, Louise formera un charmant ménage à trois. Toutefois, si elle en aima beaucoup, Louise de Villemorin n'admirera jamais autant un homme comme elle admira Malraux. Faute d'être parvenue à l'épouser, Malraux n'était pas divorcé, elle l'installe en son domaine de Verrières-le-Buisson et découvrit sur le tard les servitudes de la vie conjugale, se plaignant dans sa correspondance, je cite, « Je ne suis plus Louise de Villemorin, je suis Marilyn Malraux ».
Donc une carrière amoureuse très impressionnante. Est-ce que cela justifie que l'on fasse, comme vous le faites d'ailleurs, l'impasse sur son œuvre ?
Non, bien sûr.
Vous qui aimez d'habitude parler littérature.
Je vais essayer de me rattraper, ce d'autant plus que, bien entendu, la vie participe de l'œuvre et vice-versa. Écrire, c'est vivre. Et il est probable que, même si hostile à la vulgarité de toute déclaration d'intention, elle n'en fit jamais vraiment état, l'écriture était à Louise une assaise et une grâce, et certainement pas un divertissement. Il faut donc lire ou relire, effectivement, à notre tour, ses poèmes, sa correspondance qui est très belle et qui a publié de façon extrêmement pertinente Patrick Moriès dans sa regrettée collection Le Promeneur, ses romans et revoir les scénarios qu'elle offrit au cinéma, en particulier Les Amants de Louis Malle ou Une histoire immortelle adaptée de Karen Blixen pour Wells. Quelques titres en vrac, en commençant par son chef-d'œuvre Madame II. Immense succès de librairie que son ami Max Ophuls adaptera à l'écran avec Daniel Dario et Vittorio De Sica. Il y a aussi son premier roman, Sainte une fois, que Malraux porte lui-même chez Gallimard et lui vaut les éloges de Gide, de Drieux ou de Pollan. On pourrait également citer Julietta ou le trop méconnu La lettre dans un taxi. À la relire, on s'aperçoit d'ailleurs qu'elle n'a pas tant vieilli, ce qui lui ferait sûrement plaisir, tant ce n'était pas ce qu'elle préférait. Pas plus, par exemple, qu'une Sagan, à qui on ne peut s'empêcher de songer. Au fond, d'ailleurs, les romans de Françoise Sagan sont sans doute une version bourgeoise et trente glorieuse de ceux plus subtilement aristocratiques de Louise de Villemorin. Souvenons-nous, pardon, de cette phrase qui résume Louise tout entière et que Françoise aurait pu aussi écrire « J'accepte tout ce qu'on me donne, sauf mon âge ». Sans compter que les deux partageaient une identique incertitude de soi en tant qu'écrivain, simplement l'une était peut-être plus douée pour le bonheur que l'autre, ou savait mieux le faire croire. Bref, Mathieu, Louise de Villemorin fait depuis 47 ans une très passable morte, tant il suffit de la lire encore pour que ses tours et ses détours nous la rendent vivante.
Sur la vie amoureuse de Malraux, qui n'était pas exactement la même que celle du général Alexandre Duval-Stalla, est-ce que vous savez si il portait un jugement négatif? Enfin, est-ce qu'il le trouvait trop dissolu? Est-ce que ça n'était pas entre eux une différence de style rédhibitoire?
C'était surtout un problème pour Madame de Gaulle, qui voyait en Malraux le diable. Et il, d'une certaine manière, elle obtint le mariage de Malraux en 48 avec Madeleine.
Ouais. C'est dire quand même à quel point Malraux prêtait allégeance à De Gaulle, parce que sur ce sujet-là, qu'il se laisse convaincre.
Tout à fait. Ce qu'il faut aussi dire peut-être sur la vie amoureuse d'André Malraux, c'est qu'il était foncièrement monogame en fait. Et donc il a eu Clara Goldschmidt d'abord, avec cette espèce de couple explosif, ensuite Josette Clotis, qui malheureusement décédera à la fin de la guerre, puis Madeleine, ensuite Louise, et puis derrière Louise, sa nièce Sophie.
Olivier Monnier.
Oui, non, j'ai pas rien à rajouter de particulièrement.
Vous êtes un lecteur de Malraux, en tous les cas.
Ah oui, je suis un lecteur de Malraux, oui, bien qu'il ne l'ait pas, au moins autour de cette table. Mais ce sont des fidélités successives. D'ailleurs, il en a eu d'autres, et pas uniquement dans le domaine amoureux chez Malraux. Et c'est somme toute assez touchant, et somme toute aussi assez touchant que tante Yvonne ait fini par en rabattre sur ses prétentions là où je l'ai connu, enfin je l'ai connu,
pas moi, mais connu.
Là où on l'a connu, c'est un on de majesté beaucoup plus attentive. Je pense au cas de Jacques Chaban-Delmas, par exemple.
Eh bien merci majesté, et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. En 1968, Malraux approche doucement de ses 70 ans et on le considère comme un homme de droite, mais cela ne l'empêche pas d'aller discuter avec les jeunes révoltés de mai 68. Des discussions qui ont été transcrites par Nicolas Mouton et préfacées par Michel Crépu, qui avait 14 ans à l'époque. Préface dans un livre qui paraît en ce moment chez Folio, intitulé « Malraux face aux jeunes » et dont nous parlons à présent.
Monsieur le ministre, à 20 ans, aviez-vous un projet? Lequel?
Le projet, c'est une vie en marge, je souligne en marge. À quoi l'art devait concourir avec force. C'était aussi, et c'était de la même façon, la découverte d'une autre civilisation, la volonté de découvrir une autre civilisation. Ça a été l'Asie, mais le sentiment d'un monde différent était quasi organique, avec une conception de vie qui s'y accordait et la volonté de découvrir cet autre monde qui, à ce moment-là, avait pour forme une autre civilisation présente, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Asie, maintenant, c'est presque du tourisme. À l'époque, c'était tout différent.
Bonjour Michel Crépu.
Bonjour.
On vient d'entendre Malraux, donc interrogé par Guy Suarez en 1974, parler de sa jeunesse, de ses 20 ans et de sa volonté de vivre, je cite, « en marge » et de découvrir une autre civilisation. C'est bien sûr là-dessus que les étudiants de 1968 vont lui poser des questions sur la différence entre le jeune révolutionnaire qu'a été André Malraux et le ministre déjà un peu âgé qu'il se trouve être.
Oui, alors cet entretien qui a eu lieu, je suis d'ailleurs totalement redevable à Nicolas Mouton de la publication de cet entretien. Il est venu me le proposer, on en a donné un extrait dans la NRF, puis là on a une version intégrale. C'est une rencontre qui s'est faite à l'époque sous l'auspice de d'Europe 1, diffusée à la radio, et la rencontre ayant lieu dans le bureau de Malraux.
Ah, c'était pas dans un amphi alors de 68.
Non, c'était des lycéens sélectionnés pour poser des questions naturellement bien préparées au ministre.
On l'entend un petit peu, parce qu'effectivement, quand on lit cet entretien, on se dit que les lycéens sont assez polissés, oui, et qu'ils posent des questions, somme toute, assez réfléchies.
Mais c'est pas chez Ruquier qu'on entend ce genre de questions.
C'est parce qu'il n'est plus à Europe 1, ça dit en passant.
Et c'est évidemment une discussion fascinante, parce qu'elle a lieu à la veille de 68, alors que personne ne se doute naturellement de ce qui va se passer. Et la pertinence paradoxale des questions fait que, rétrospectivement, cet entretien prend une valeur prémonitoire, sans forcer non plus la note. Mais quand même, c'est étonnant. Notamment la première question, où un des élèves demande au ministre pourquoi les jeunes ne peuvent pas faire de politique avant tel âge, etc. Et il y a une discussion qui s'embraye immédiatement sur le thème de la jeunesse, où Malraux invoque immédiatement Rimbaud et se met à parler des barricades comme d'un phénomène. Il dit, mais vous savez, il s'adresse aux élèves, il dit, vous savez ce que c'est que les barricades? Ce sont des bouts de bois, des planches qu'on entrepose pour empêcher les chevaux de passer dans les émeutes, dans les trucs. Donc il a une espèce de lecture 19e siècle de la barricade, une lecture très romantique en définitive.
Et c'est pour ça qu'il dit d'ailleurs, aujourd'hui ça n'existe plus les barricades, parce qu'il suffit d'un tractopelle pour...
Oui, pour dégager.
Voilà.
C'est à la fois vrai et faux. Enfin, c'est...
Et en même temps, 68, il y aura des espèces de barricades quand même.
Oui, oui, tout à fait. Donc c'est... Et puis c'est aussi une façon qu'il a immédiatement de pointer la jeunesse comme étant le temps privilégié de l'éveil, enfin ça paraît banal de le dire, mais... Quand dans la bouche de Malraux, ça prend un intérêt particulier quand il fait remarquer, par exemple, que si on avait dit, c'est un tic presque chez lui, de déplacer toujours les points de vue, si on avait dit à Corneille que le CID devait prioritairement concerner ou passionner les jeunes, Corneille aurait été stupéfié, il n'aurait même pas compris ce qu'on lui disait. Et donc, la jeunesse est un motif, à l'époque dont nous parlons, qui a évidemment une valeur très, très différente.
Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils n'ont pas en face de lui n'importe quel ministre. Ils ont en face d'eux, plutôt, quelqu'un qui a vécu sa jeunesse avec passion, qui a été du côté des révolutionnaires, quelqu'un qui, on l'entendait en archive, avait à 20 ans une volonté de vivre en marge. Et on sent cela qui pèse un peu comme un sous-texte dans l'ensemble de l'entretien, en fait, de savoir cela.
Oui, oui, absolument. Et la figure de Malraux qui apparaît à la lecture de cet entretien conjugue plusieurs types qui sont très différents les uns des autres. Malraux est à la fois un métaphysicien, un poète, il a une pratique de la poésie. Un livre vient de paraître très intéressant chez Hermann de François de Saint-Chéron qui recense la présence de la poésie française dans l'œuvre de Malraux. C'est considérable. Donc il a formé sa langue dans la poésie. Et puis il y a aussi toujours, en réalité, toujours depuis le début, cette passion pour l'art qui est certainement la chose qui finalement l'a préservé de l'aveuglement révolutionnaire où ses collègues de la même génération sont partis s'engouffrer, à quelques exceptions près, mais elles sont rares.
Alexandre Duval-Stalla, est-ce que d'abord vous pensez qu'il avait été dépêché par le général de Gaulle pour faire cet entretien?
Non, je crois pas que...
C'était un ministre à ce niveau-là, très libre, il gérait absolument comme il le souhaitait.
Ah oui, c'était un ministre très libre, d'autant plus que le général de Gaulle fait assez extraordinaire, par exemple, va lui permettre d'une certaine manière d'être en vacances de son ministère pour écrire les antimémoires au plus noir de la dépression. Et ça, c'est un fait assez exceptionnel, et c'est le seul qui, au grand d'ailleurs, dame de Pompidou, qui trouvait que Malraux n'était pas si souvent que ça à son ministère.
Est-ce qu'il aimait discuter avec les jeunes, selon vous? Parce que c'est une posture, on sait qu'avec ses enfants, il a eu parfois des difficultés, qu'il était quelqu'un qui pouvait être froid avec la jeunesse.
Je crois qu'il avait une hypersensibilité cachée derrière une hyper timidité qui effectivement rendait les relations avec les autres un peu compliquées. Mais il a, s'il y a une chose qui le passionnait, c'était toujours la discussion. Gide raconte notamment dans les années 30 où il part prendre son train à Gare de Lyon. Malraux rentre dans sa voiture et revient d'un voyage et lui fait toute l'histoire de la civilisation en mélangeant, comme le dit très très justement Michel, c'est-à-dire en mélangeant à la fois les points de vue, les et c'est ça la grande force en fait d'André Malraux, c'est que d'une certaine manière il nous oblige à réfléchir quand il parle de cette du Cid. C'est vrai que c'est extraordinaire de dire retrouvons-nous sur le Cid et Corneille, vous verrez que vous aurez un autre point de vue.
C'est une pratique en fait littéraire du musée imaginaire. Le fameux musée imaginaire, ce n'est rien d'autre que un extraordinaire scintillement de reflets qui font que vous percevez tel ou tel motif, telle ou telle figure, différemment, selon l'endroit où vous êtes placé dans l'histoire. C'est tout à fait extraordinaire.
Et lui, c'était peut-être le ministre imaginaire du général de Gaulle.
Et je pense que pour bien comprendre André Malraux, on ne peut pas passer à côté de cette fascination, mais cette obsession de la mort. C'est-à-dire que l'art, en fait, est pour lui une manière de passer la mort. Et je pense que toute sa vie, d'ailleurs, a été jalonnée d'un certain nombre de morts dramatiques, la femme qu'il aimait, les enfants qui étaient les siens. Et il a sa réflexion, c'est une réflexion face à la mort.
Mais il leur explique ça, d'ailleurs, aux étudiants, Michel Crépu.
Oui, Alexandre a tout à fait raison. C'est comme si la mort, pour lui, gardait une place que la révolution, que la croyance révolutionnaire ne permet pas. Si Malraux s'est détaché finalement du mythe communiste, ou du mythe révolutionnaire, ou du mythe terroriste, pour devenir l'homme dont nous parlons face à De Gaulle et finalement investi dans l'aventure de l'art d'une façon absolument unique en son genre, c'est parce que la mort garde la main d'une certaine manière. La révolution dit non, nous avons résolu le problème, donc la mort n'est plus un problème. Malraux, évidemment, n'a pas vécu cela, au contraire. Et là, il y a une sorte de point de jonction qui s'opère entre la confrontation avec la mort et la réponse par l'art et aussi par la politique, puisque le général de Gaulle apparaît à Malraux comme une statue de Sumer. Il faut bien se dire ça. Il y a un endroit dans les antimémoires où Malraux observe que tout à coup se fait cette remarque que De Gaulle ressemble étonnamment à un autoportrait de Poussin. Et il y a vraiment que lui pour observer ce genre de choses. Et on se précipite, évidemment, on se précipite pour vérifier si effectivement...
Et
c'est spectaculaire, évidemment.
Oui. Mais bon, on peut aller peut-être jusqu'à dire que pour Malraux, De Gaulle, c'est une œuvre d'art.
Mais complètement, c'est une œuvre d'art dans le sens qu'il donne à l'œuvre d'art, c'est-à-dire une réponse à la mort, une réponse à ce qui n'a pas de sens. L'art donne une réponse à ce qui n'a pas de sens.
Et alors,
donne du sens à ce qui n'a pas de sens.
Est-ce que les jeunes de 17-18 ans à qui Malraux parle de la mort le reçoivent?
Oui, parce que les questions aussi sont très significatives. On est encore, il ne faut quand même pas oublier, à la veille de 68, que la référence socialiste ou la référence révolutionnaire est encore extrêmement forte. Et les étudiants savent que Malraux a été... ils savent bien l'histoire, ils connaissent bien l'histoire. Donc ça les intéresse beaucoup de savoir pourquoi, d'essayer de comprendre pourquoi Malraux a évolué, pourquoi il s'est déplacé par rapport à tout ça.
Oui, on sent qu'ils se projettent, eux aussi, et ces jeunes qui sont les 68ards, qui vont être les 68ards, s'imaginent aussi à l'âge... de Malraux quand il est en face, en face d'eux. Donc il y a une espèce de projection dans ce personnage, encore une fois, de quelqu'un qui a été jeune comme eux, c'est-à-dire révolté comme eux, qui aujourd'hui est dans la respectabilité. Et on sent bien cette espèce de questionnement sur ce que sera leur avenir.
Il y a un pouvoir de l'intuition chez Malraux qui est toujours extraordinaire. Quand les élèves lui demandent, mais... vous avez connu Nehru, Mao, Castro, Kennedy, etc. Quel est le point commun, etc. Et alors, on attend une réponse, une réponse banalement politique, comme on pourrait avoir, banalement politique. Et il répond, il dit, le point commun, c'est l'obsession.
Alors De Gaulle, admirable pour Malraux, Mao aussi, un homme admirable. C'est la question du totalitarisme aussi, Michel Crépu, qui se pose. Il y a une fascination quand même aussi pour le totalitarisme, non avoué sans doute, mais de la part de Malraux.
Il y a une fascination pour le grand homme. Et pour Malraux, Mao est un grand homme. Donc il est très content à Pékin d'être reçu par le grand timonier. Parce que pour lui, encore une fois, c'est le cas de figure Chateaubriand-Napoléon. Et là, il est en mesure de l'opérer avec Mao. Le problème, mais c'est une discussion qu'il faudrait approfondir, je ne prétends pas du tout la régler là maintenant, mais il y a une ambiguïté dans la perception que Malraux a du totalitarisme qui est peut-être due au fait qu'il n'a pas vraiment eu le temps de lire les grands textes, notamment, je pense, à l'archipel du Goulag. Je ne crois pas, mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, on ne le sent pas quand on lit les Antimémoires. On ne sent pas... il est encore pris dans une perception romantique de la Révolution. Et le grand homme auquel il s'adresse dans la personne du grand timonier, c'est aussi un personnage, finalement, Mao, à ses yeux, un personnage romantique.
En sachant qu'on est un peu avant quand même la révolution culturelle, donc avant les millions de morts créés par cette révolution culturelle. Mais c'est vrai qu'il y a une fascination pour le grand homme. Et d'ailleurs, la manière, on s'est beaucoup gossé de la retranscription diplomatique de cet entretien entre Mao et Malraux, qui n'a rien à voir avec ce qui est dans les Antimémoires, mais la force, en fait, de Malraux, c'est justement la force du romancier, c'est-à-dire d'avoir une projection imaginaire sur cet univers qu'est celui de Mao. Et je pense que, notamment la Chine, pour lequel il a très très tôt été, puisque la tentation de l'Occident est un dialogue entre un Chinois et un jeune Français, est déterminant dans sa perception qu'il a justement de ce continent chinois.
l'imagination au pouvoir, Michel Crépu, slogan de 1968. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu adhérer à ce slogan-là?
Il aurait très bien pu, oui, absolument, absolument. Et Alexandre a tout à fait raison d'évoquer la tentation de l'Occident, écrit à 25 ans. Livre extraordinaire de beauté et d'intelligence. Enfin, c'est... Gide lui a dit un jour, ce qui est curieux chez vous, Malraux, c'est qu'il n'y a pas d'imbéciles dans vos romans. Et c'est une remarque intéressante parce que, effectivement, on est toujours à un niveau de supériorité intellectuelle.
Peut-être un peu trop parfois.
Peut-être qu'il fatigue un peu.
Et d'ailleurs, le général de Gaulle était vraiment bluffé par la culture d'André Malraux. Je crois que c'était un des traits d'admiration du général de Gaulle pour André Malraux, c'était qu'il était bluffé par la culture. Et d'ailleurs, face à Malraux, il ne parlait pas. C'était bien rare.
Merci beaucoup à tous les deux. L'imagination au pouvoir, c'est maintenant Jacques Bonnafé qui nous lit de la poésie.
Bonjour, Jack Ralit est cet homme discret, probe, courtois, mêlé à la vie qui parle en singularité d'une rive où poésie et politique s'entremêlent depuis longtemps, où art, culture et société font pensée convergente. Il pourrait écrire un livre à partir de son seul carnet d'adresses, épais calepin de cuir marron et limé d'où plusieurs feuilles se détachent à force d'usage, qui ne le quitte jamais et qui raconte à lui seul 50 ans d'une vie politique mariée à l'art. À la lettre A, il y a Aragon. Un numéro de téléphone et entre parenthèses le mot maison. Le montreur, poème d'Aragon. Ici danse le zéro vide, l'absence ronde, le vent blanc. À un moment, j'ai cru que Aragon nous parlait là des technocrates. Mais non, quand on réfléchit bien. Ici danse le zéro vide, l'absence ronde, le vent blanc, le repos clair de la pensée. Et peut-être en avez-vous assez de ce joli monde à sanglots. À qui nous débarrassera, dites-vous, les poètes? Mesdames, messieurs, vous vous faites de la poésie apparemment une idée sommaire et je vais, ouvrez bien les yeux, avoir à vous en montrer d'une sorte qui n'est plus de votre habitude. Mais regardez encore un peu ce beau néant de ma lunette. Ah, si vous aviez l'âme honnête, il vous suffirait de ce feu, comme une bouche que tu baises, comme un coup de poing sur le front, comme la chute d'un marron dans la braise. Le soleil de la vérité cède à la lune du mensonge. Passons, passons, passons l'éponge. Éclaire ta voix pour chanter. Ici danse le zéro vide, l'absence ronde, le vent blanc. Nos mots n'imitent pas la réalité, ne la copient pas. Ils en sont indépendants, alors que pourtant ils servent à la dire et à la connaître. Il faut donc faire attention aux mots eux-mêmes, car ils portent des pensées. Pour penser juste, il faut soigner ces mots et ne pas se contenter de les réciter. En politique, c'est pareil. Les hommes politiques qui ne font bien souvent que lire des discours préparés par d'autres, qui parfois même les découvrent en les lisant, n'ont pas compris ce qu'est la nature du langage. Ils n'ont pas saisi que la pensée et les mots marchent du même pas et que négliger les mots, c'est négliger la pensée. Parler ne suffit pas toujours. Mais si l'on ne dit pas n'importe quoi, c'est déjà quelque chose. Écrire, c'est une révolution de la pensée. Ce n'est pas la même temporalité. Cela ne prend pas la même voie. La politique, parce qu'elle est une chose qui s'écrit, puis qui se dit, a affaire avec la question du signe. D'Arthur Rimbaud, Honte. Tant que la lame n'aura pas coupé cette cervelle, ce paquet blanc, vert et gras, à vapeur jamais nouvelle, à lui devrait couper son nez, sa lèvre, ses oreilles, son ventre et faire abandon de ses jambes. Ô merveille! Mais non, vrai, je crois que tant que pour sa tête la lame, que les cailloux pour son flanc, que pour ses boyaux la flamme n'auront pas agi, l'enfant gêneur, la sissotte bête, ne doit cesser un instant de ruser et d'être traître comme un chat des monts rocheux, d'empuantir toute sphère. Qu'à sa mort pourtant, ô mon Dieu, s'élèvent quelques prières.
Ah.
Voilà, Jacques Bonafé qui poursuit jusqu'à jeudi sa lecture de texte de Jacques Ralite. Merci encore à vous deux, Alexandre Duval-Stalla et Michel Crépu, d'être venus nous parler du gaulliste Malraux. Alexandre Duval-Stalla, votre biographie croisée, André Malraux, Charles de Gaulle, un destin, deux légendes, apparu très récemment, c'était le 4 novembre dernier chez Gallimard. Quant à vous, Michel Crépu, l'édition de Malraux face aux jeunes que vous avez préfacé est aussi disponible chez Gallimard en folio. Pour les deux livres, c'est depuis le 4 novembre. Cette émission a été réalisée par Laurence Millet, à la console Clément Daté, à la préparation Didier Pinault, Corinne Amaran, Vanessa Prévost, Eva Le Saut. Demain, nous parlerons de la production romanesque, cette fois d'André Malraux. Ce sera avec l'universitaire Henri Godard. Mais dans un instant, c'est avec la méthode scientifique que vous avez rendez-vous, et en particulier avec Nicolas Martin.